Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 30 août 2024. Politique américaine, Kamala Harris a accordé sa première interview de candidate démocrate à la Maison-Blanche. Donald Trump, son challenger républicain, parcourt le Michigan et le Wisconsin. Au Proche-Orient, troisième jour d'une vaste opération israélienne en Cisjordanie ce vendredi. En Guinée, une vingtaine d'ONG réclament la lumière sur la disparition de deux opposants. Le Gabon célèbre ce 30 août le premier anniversaire du coup d'État qui a mis fin à 55 ans du règne des Bongo.
Le CTRI a tant bien que mal réussi à instaurer une certaine stabilité politique après des décennies du régime Bongo.
Armand Zambo de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun réagira dans la partie magazine. En Afrique du Sud, près de 6 200 meurtres ont été commis en 3 mois. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En marge d'un déplacement de campagne en Géorgie, la vice-présidente démocrate Kamala Harris a accordé à CNN sa première interview de candidate à la Maison-Blanche. Son challenger, l'ancien président républicain Donald Trump, s'est rendu hier dans le Michigan et le Wisconsin. En marge de sa campagne, il a accordé une interview à NBC. Nathalie Bache.
Kamala Harris et Donald Trump mettent les bouchées doubles en se déplaçant dans les États stratégiques où la présidentielle du 5 octobre s'annonce particulièrement serrée. Accompagné de son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, Kamala Harris s'est arrêtée dans un lycée et un restaurant. La Géorgie votait républicain depuis 1996, mais a été remportée par le président démocrate Joe Biden en 2020. Lors de son interview, Mme Harris a défendu ses idées. Sur l'immigration, elle a dit qu'il devait y avoir des conséquences pour les personnes entrant de manière illégale sur le territoire américain. Elle a toutefois assuré que ses valeurs n'avaient pas changé. Sur le conflit au Moyen-Orient, elle a réitéré son soutien au droit d'Israël à se défendre. Pour sa part, l'ancien président Donald Trump s'est rendu hier dans le Michigan puis le Wisconsin. Il a annoncé être en faveur de la prise en charge par l'État des coûts des fécondations in vitro afin que le pays puisse avoir davantage de bébés. Lors d'une interview en marge du meeting de campagne, il a par ailleurs estimé trop court l'actuel délai d'un maximum de 6 semaines pour pouvoir avorter en Floride, où il réside. La question du droit à l'avortement fera l'objet d'un référendum en Floride et dans d'autres États lors de l'élection de novembre. Kamala Harris et Donald Trump continuent d'écumer les États dits pivots à l'approche du grand débat prévu le 10 septembre entre les deux principaux candidats à la présidentielle américaine.
Israël affirme avoir tué 3 membres du Hamas dans une frappe aérienne en Cisjordanie au troisième jour d'une vaste opération lancée en marge de la guerre à Gaza. Alexandrine Oloyon.
Au moins 19 Palestiniens ont été tués depuis mercredi par l'armée israélienne en Cisjordanie. Dans le cadre d'une opération qu'elle a qualifiée d'antiterroriste, Israël a envoyé mercredi des colonnes de blindés sur Jenin, Tul Karem, Touba et leur camp de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie. Londres a appelé à une désescalade urgente. Pour la France, ces opérations aggravent un climat d'instabilité et de violence inédit. L'Espagne, pour sa part, dénonce une flambée de violence inacceptable. Les violences meurtrières se sont poursuivies dans la bande de Gaza, où les secours ont fait état d'au moins 3 morts dans l'est de Khan Younes et 2 autres dans le camp de réfugiés de Jabalia. Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé avoir terminé une opération dans le sud et le centre de la bande de Gaza dans les régions de Khan Younes et de Deir al-Balah, assurant y avoir tué plus de 250 terroristes après 1 mois d'activités simultanées au sol et en sous-sol.
Le Kremlin a affirmé aujourd'hui ne pas avoir d'inquiétude sur une éventuelle arrestation de Vladimir Poutine en Mongolie. Début septembre, premier pays membre de la Cour pénale internationale où le leader russe se rend depuis l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Vladimir Poutine est attendu en effet le 3 septembre en Mongolie. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a néanmoins exhorté les autorités mongoles à transférer Vladimir Poutine à la Cour pénale internationale de La Haye. Les Philippines et le Vietnam ont convenu aujourd'hui de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité maritime, un tournant pour ces deux pays confrontés aux revendications territoriales chinoises en mer de Chine méridionale. Le ministre vietnamien de la Défense était à Manille pour s'entretenir avec son homologue philippin Gilberto Teodoro après avoir rendu une visite de courtoisie au président Ferdinand Marcos plus tôt dans la journée.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, en Guinée, une vingtaine d'organisations de défense des droits de l'homme et Amnesty International appellent la junte à diligenter une enquête indépendante pour faire la lumière sur deux opposants disparus après avoir été arrêtés. Les précisions de John Lindon.
Dans un communiqué distinct, l'ambassade des États-Unis en Guinée s'est aussi dite préoccupée par la disparition de Oumar Sylla, plus connu sous le nom de Fonike Menge et Mamadou Biloba. Ils sont tous deux responsables du Front national pour la défense de la Constitution, un mouvement citoyen dissous par les militaires au pouvoir. Ils ont été arrêtés le 9 juillet selon le FNDC qui dénonce un kidnapping. Les autorités guinéennes doivent immédiatement diligenter une enquête indépendante et transparente sur les disparitions forcées des deux militants dont on est sans nouvelles depuis plus de 7 semaines, déclare dans un communiqué Amnesty et 17 ONG guinéennes de défense des droits humains. Leur communiqué est publié à l'occasion de la Journée internationale des victimes des disparitions forcées.
Le départ des soldats allemands du Niger s'est achevé ce vendredi, ont annoncé le chef d'état-major nigérien de l'armée de terre et un colonel allemand lors d'une cérémonie à Niamey. Fin mai, les deux pays avaient convenu d'un accord pour continuer à exploiter la base de Niamey jusqu'au 31 août, mais les négociations pour prolonger ce bail n'ont pas abouti. Elles ont buté sur le fait que le personnel stationné ne pourrait plus bénéficier d'immunité contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Le Gabon a célébré ce 30 août le premier anniversaire du coup d'État qui a mis fin à 55 ans de règne des Bongos. Depuis une année, ce pays d'Afrique centrale est dirigé par le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, qui est à la tête du CTRI. Les célébrations ont été marquées par une parade militaire, un match de football entre députés et membres du gouvernement, un conseil et un feu d'artifice. Tout cela après l'inauguration, hier jeudi, de plusieurs infrastructures de transport aérien, routier et maritime. Le général Oligui, nouvel homme fort de l'État, a promis un retour du pouvoir aux civils en 2025 après des élections libres et transparente. En Guinée équatoriale, 15 mercenaires tchadiens accusés d'être impliqués dans un coup d'État déjoué en décembre 2017 à Malabo ont été remis cette semaine aux autorités tchadiennes après avoir été graciés par le président équato-guinéen. Le 3 janvier 2018, le ministre de la Sécurité, Nicolas Obama Nchama, avait annoncé qu'un coup d'État avait été déjoué. Selon lui, un groupe de mercenaires étrangers, tchadiens, soudanais et centrafricains, à la solde de partis d'opposition, avait voulu le 24 décembre 2017 attaquer le chef de l'État qui se trouvait dans le palais présidentiel de Kouété à Mongomo. L'Afrique du Sud a enregistré près de 6200 meurtres entre avril et juin, soit une baisse de 0,5% par rapport à la même période de l'an dernier, selon les statistiques de la police publiées ce vendredi. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Selon le ministre de la police, Senzo Mchunu, quelques 6198 personnes ont été assassinées. Les viols ont par ailleurs augmenté de 0,6% par rapport à la même période l'an dernier, avec plus de 9000 cas recensés par la police entre avril et juin. Plus de 44 000 affaires liées aux stupéfiants ont été enregistrées. En juillet, 3 Mexicains et 2 Sud-Africains ont été arrêtés lors d'un raid dans un laboratoire clandestin de méthamphétamine près de Johannesburg où de la marchandise a été saisie pour environ 100 millions d'euros. Dans une autre affaire, un Russe et un Sud-Africain ont été arrêtés après la saisie par la police de 14 sacs contenant de la cocaïne pour près de 13 millions d'euros. La criminalité reste l'un des principaux défis du gouvernement d'Union nationale après la réélection du président Cyril Ramaphosa en mai dernier. Le taux d'homicide par habitant est l'un des plus élevés au monde.
Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui des restrictions de visa à l'encontre de responsables, y compris gouvernementaux, du Soudan du Sud, accusés d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire. Washington dénonce notamment les coûts élevés inacceptables, les obstacles bureaucratiques et les risques liés à la fourniture d'une aide humanitaire au Sud-Soudanais dans le besoin. Les premiers vaccins contre le Mpox devraient arriver ces prochains jours en République démocratique du Congo, a indiqué aujourd'hui le directeur général de l'OMS. La recrudescence du Mpox qui touche la RDC et d'autres pays du continent, notamment le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, et l'apparition d'un nouveau variant MB ont poussé l'OMS à déclencher le 14 août son plus haut degré d'alerte sanitaire. La RDC étant le pays le plus touché par le variant, la plus grande partie des vaccins ira dans le pays, a indiqué le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et puis, en Tunisie, la justice administrative a autorisé aujourd'hui Imed Daimi à se présenter à l'élection présidentielle dans le pays, faisant droit à un recours en appel du candidat. La candidature d'Imed Daimi avait été invalidée par la commission électorale, faute d'un nombre suffisant de parrainages. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Alexandrine Ollognon.
La compagnie pétrolière publique nigériane a déclaré qu'elle a lancé la procédure d'appel d'offres pour l'exploitation des raffineries de Wari et de Kaduna, qui devraient commencer à traiter du brut cette année. Les raffineries qui y sont en cours de modernisation après avoir été fermées pendant plusieurs années ont une capacité de traitement respectivement de 125 000 barils par jour et de 110 000 barils par jour. Le groupe logistique public sud-africain Transnet a accepté vendredi un prêt de plus de 283 millions de dollars de la part de la nouvelle banque de développement mise en place par le groupe des économies émergentes BRICS. Le prêt sera garanti par le gouvernement sud-africain, a déclaré à Reuters le directeur général Duncan Peters en marge d'une réunion de la nouvelle banque de développement qui se tient au Cap. L'OPEP Plus se dit prêt à procéder à une augmentation de la production de pétrole prévue à partir d'octobre. 8 membres de l'OPEP Plus devraient augmenter leur production de 180 000 barils par jour en octobre dans le cadre d'un plan visant à commencer à dénouer leur dernière série de réduction de production de 2,2 millions de barils par jour tout en maintenant d'autres réductions en place jusqu'à la fin de 2025.
Passe maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Des nouvelles des Jeux paralympiques de Paris 2024, la Tunisienne Rawa Tlili a remporté l'or au lancer de poids.
Oui, la Tunisienne, grande championne du para-athlétisme, a remporté son 7e titre paralympique au Stade de France dans la catégorie F41 du lancer de poids. Grâce à cette nouvelle médaille, Rawa Tlili ouvre le compte de la Tunisie dans cette édition 2024, un titre qu'elle a célébré devant un petit contingent de supporters. Tlili, 34 ans, qui concourt dans la catégorie des athlètes de petite taille, était une grande favorite au titre, elle qui détient le record du monde de sa catégorie depuis les Jeux de Tokyo en 2021. Elle n'a eu besoin que d'un deuxième essai, un lancé à 10 m40 pour s'installer en tête jusqu'à la fin du concours. Il s'agit de son 5e titre consécutif dans le lancer de poids.
Nous revenons sur le transfert de l'Ivoirien Odilon Kosonou, prêté par le Bayer Leverkusen à l'Atalanta à Bergame.
Le défenseur international ivoirien, champion en titre de la Bundesliga et champion d'Afrique avec son pays, a été prêté avec option d'achat par son club allemand du Bayer Leverkusen à l'Atalanta Bergame en Italie. Le magazine allemand Kicker parle d'une indemnité de prêt de 5,5 millions d'euros assortie d'une option d'achat de 25 millions d'euros. Bonne ou mauvaise affaire pour le jeune éléphant de 23 ans? Élément de réponse avec Ahmed Bakayoko, notre confrère de la radio-télévision Al Bayan, notre station partenaire à Abidjan.
Je pense que ce n'est pas un mauvais choix, loin de là, pour Odilon Kosonou. Si on veut faire un comparatif en termes de qualité, je pense que, pour être réaliste, l'Atalanta Bergame n'est pas supérieure au Bayer Leverkusen en termes de qualité de jeu. Mais pour Odilon Kosonou, c'est une façon pour lui de franchir un palier. Pourquoi ? Parce que à Leverkusen, il était confronté à une rude concurrence, puisque au niveau du secteur défensif, parfois il était relégué sur le banc. Il n'a pas disputé les 38 journées, mais en raison de la qualité du secteur défensif et la concurrence rude qu'offrait cette ligne de jeu-là. Par contre, à Atalanta Bergame, il part avec une assurance. C'est sûr qu'il sera titulaire, puisque en termes de standing. Étant champion d'Allemagne avec l'Uberkusen, il arrive en Italie avec un statut. Et c'est bon pour lui puisque cela va lui permettre d'avoir de la régularité dans le jeu, être régulièrement appelé en sélection. Et puis aussi à travers les performances, s'ils sont bons, qu'il enchaîne, de pouvoir pourquoi pas augmenter encore sa valeur marchande et faire parler de lui sur le plan européen.
Ahmed Bakayoko, journaliste à la radio-télévision Albayan, notre station partenaire à Abidjan.
Page des sports VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Gabon, cela fait un an que les militaires ont renversé le président Ali Bongo Ondimba et se sont emparés du pouvoir. Ce 30 août, le gouvernement de transition célèbre cet anniversaire en mettant en avant les accomplissements du général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui entretient le mystère sur son éventuelle candidature, alors qu'il avait promis de rendre le pouvoir aux civils. Pour une analyse, Mouamadou Mfa joint l'analyste politique Armand Zambo. Il est chercheur associé au département de politique internationale à l'Institut des relations internationales du Cameroun.
Le CTRI a tant bien que mal réussi à instaurer une certaine stabilité politique après des décennies de régime Bongo. Cela a d'ailleurs permis de mettre fin à une période d'incertitude et de tension qui avait marqué les derniers mois de la présidence d'Ali Bongo. Le deuxième point que je souhaite soulever, ce sont les réformes institutionnelles. On constate clairement que le CTRI a annoncé plusieurs réformes visant à renforcer les institutions démocratiques. Le troisième point que je souhaite également soulever, ce sont les questions qui ont trait à l'économie et au développement. On constate clairement que sur le plan économique, le nouveau régime a tenté, autant que faire se peut, de redresser certains aspects de l'économie gabonaise, notamment en s'attaquant au sentinel problème de la corruption et bien entendu en promouvant des investissements étrangers.
Beaucoup de Gabonais espéraient que ce putsch signerait la fin du long règne du pouvoir des Bongo. Peut-on dire que le Gabon a tourné la page des Bongo et leur système politique?
Il est encore prématuré, de mon point de vue, de déclarer la fin définitive de l'ère Bongo. Bien que le coup d'État ait mis un terme à la présidence d'Ali Bongo, les structures politiques et économiques établies durant les décennies précédentes demeurent toujours en place. Et donc, en réalité, la transition pourrait donc être perçue comme une rupture symbolique, si on veut, mais il reste à voir si cela véritablement va se traduire par un changement structurel à long terme ou alors si l'ancien système va davantage continuer à influencer la nouvelle gouvernance.
À l'occasion du premier anniversaire, le gouvernement de transition met en avant ses accomplissements dans divers domaines, y compris économiques. Est-ce un signe que le général Oligui pense déjà à l'après-transition?
Effectivement, les réformes, je l'ai dit dans mon propos liminaire, sont déjà perceptible et naturellement, il est important de penser à la pré-transition. Et il me souvient que dans son discours initial, le président de la transition avait évoqué une volonté de transition vers un gouvernement civil et démocratique. Mais maintenant, il faut également relever que l'histoire récente des coups d'État en Afrique montre clairement que les militaires peuvent parfois s'accrocher au pouvoir plus longtemps que prévu, en invoquant par moment la nécessité de stabiliser le pays. Il peut vouloir se retirer et le peuple gabonais le soutenir, arguant que voilà, au regard des réformes apportées, il est l'homme de la situation.
Armand Zambo de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Une vingtaine d'organisations guinéennes de défense des droits de l'homme et Amnesty International appellent le pouvoir en Guinée à ouvrir une enquête indépendante sur la disparition d'Oumar Sylla, plus connu sous le nom de Fonike Menge, et Mamadou Bioba, deux responsables du Front National pour la défense de la Constitution. Ils avaient été arrêtés le 9 juillet, selon leur collectif, qui a dénoncé un kidnapping. Yacouba Ouedraogo a joint à Conakry Souleymane Sow, directeur d'Amnesty International Guinée.
Nous n'avons aucune nouvelle. Depuis leur disparition début juillet, les autorités n'ont communiqué qu'une fois à travers le procureur général pour nous dire que ces deux personnes ne se trouvent dans aucune maison zones d'arrêt de la République qui ne sont pas convoqués par la police judiciaire et donc ils ne savent pas où ils sont. Et donc, ce sont des disparus. Cette inquiétude grandit, y compris surtout pour les proches, la famille de ces disparus. Et nous interpellons l'État à leur responsabilité de garantir la sécurité des citoyens guinéens.
Vous parlez d'une demande de l'ouverture d'une enquête. À qui cette demande a été adressée et est-ce que vous avez reçu des esquisses de réponse à cette demande?
Pour le moment, nous n'avons aucune réponse. Et donc, c'est à l'appareil judiciaire, à l'État guinéen en tout cas, d'ouvrir une enquête et de communiquer sur les résultats de ces enquêtes.
Est-ce que les familles des concernés ont des nouvelles?
Aux dernières nouvelles, jusqu'à hier, ni les familles ni les avocats de ces deux disparus n'ont une seule nouvelle de ces personnes. Ces derniers mois, il y a quand même des cas de mort en détention et donc nous espérons qu'ils sont quand même en bon état et en santé.
Dans des cas pareils, que font des organisations comme Amnesty International?
En Guinée, il n'y avait pas ces cas de disparition. Il y avait des arrestations pour 5 jours, 3 jours où on n'avait pas de nouvelles. Après, on savait où c'était. Mais malheureusement, c'est une nouveauté pour nous actuellement en Guinée. Et nous, évidemment, nous sortons ce communiqué pour interpeller, mais évidemment, nous comptons aussi saisir le rapporteur spécial par les gens internationaux, comment ils peuvent s'intéresser quand même à ces disparitions.
Est-ce qu'on sait au moins pourquoi ces personnes-là ont disparu? Je veux dire, pour quelles raisons elles ont été arrêtées ou enlevées?
Tout ce que nous savons, c'est que lors de leur arrestation, Fonikere et Bilo, ils avaient appelé à travers un mouvement citoyen à organiser une manifestation pacifique pour protester contre le retrait des licences des médias, pour manifester leur opposition à la vie chère et à la libération, surtout de possibiliser des manifestations pacifiques. C'était leur dernière communication. Et vu que dans le contexte dans lequel nous vivons, il y a malheureusement cet état aujourd'hui de réprimer toutes les voix dissidentes, donc nous pensons que c'est parce qu'ils ont appelé une forme de manifestation et que c'est pour cela, en tout cas, que ces personnes ont approuvé. C'est que l'enquête ou la justice nous dise autre chose, nous, ce sont ces faits que nous disons.
Souleyman Sow, directeur d'Amnesty International Guinée, vous êtes bien sûr VOA Afrique, en radio et sur Internet. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a conclu jeudi une visite au Sénégal axée sur le renforcement de la coopération pour réguler la migration. Il a présenté des initiatives économiques pour limiter l'immigration clandestine tout en signant des accords bilatéraux avec d'autres pays ouest-africains. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar Babacar Ndiaye, chercheur principal à Timbuktu Institute.
Il se posera de grands défis. Le principal défi, ce sera la transparence dans la gestion de la sélection des candidats à la migration circulaire. Cette expérience n'est pas nouvelle, elle a été tentée au Maroc, ça a réussi plus ou moins. Ça a été tenté au Sénégal déjà en 2007-2008 avec la première vague de migration Barcelone-Barzac, le phénomène de voir Barcelone ou la mort avec les pirogues. Mais comme tous les échecs des initiatives en Afrique, le mal, c'est le même, la politisation. Il y a eu des candidats qui ont été choisis. Par exemple, on cherche du travail agricole. On choisit des militants de partis politiques qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Donc, dès qu'ils sont arrivés en Espagne, il y en a beaucoup qui sont, je sais pas, compétents ou tout de suite ont disparu dans la nature. Maintenant, si le programme est géré de manière rigoureuse et transparente, c'est-à-dire qu'on choisit des personnes, des jeunes qui sont du milieu agricole, qu'une formation agricole, qui ont un projet agricole dans leur pays, et convaincre des jeunes, surtout les premières expériences sont très importantes du côté espagnol, que ces jeunes qui vont croire à leur pays aussi. Et alors que c'est tous, en plus, c'est un fantasme d'aller tous en Europe. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, surtout ceux qui n'ont pas d'emploi? Traîner dans la rue, avoir une vie de misère. La plupart, c'est des échecs. Si on n'a pas de formation professionnelle au Sénégal, on ne peut même pas trouver du travail. Est-ce qu'on va trouver ça en Europe, c'est une illusion et un rêve. Alors que s'ils ont la formation professionnelle et qu'ils ont un projet professionnel et croient à leur pays, ils peuvent aller. Ça se fait avec le Maroc où c'est, ça marche plus ou moins. Chaque année, dans le domaine agricole, bien, ça se passe.
Quelles autres solutions envisagez-vous pour renforcer la coopération internationale afin de proposer des alternatives viables à la migration clandestine tout en respectant les droits des migrants et en assurant le développement local?
La question de la coopération internationale face à ce problème est au cœur de cette problématique. En fait, même le système des Nations Unies, dans son ensemble et les États, ont pris conscience de ce phénomène, malgré la réponse qui n'est pas assez proactive, qui n'est pas assez décisive, a été l'adoption en 2018 de ce qu'on appelle le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Autrement dit, la fin qui inclut aussi de manière holistique comment s'attaque à ce problème d'une complexité mais incroyable. C'est-à-dire que et ce package comprend plusieurs facteurs, plusieurs axes d'intervention. Un, c'est la lutte contre le trafic illicite de migrants, qui est un phénomène criminel défini par le droit international et reconnu par tous les États membres. Il réglera qu'en trouvant une distribution plus équilibrée des richesses et des opportunités à travers le monde. C'est ça, ce sera la solution de la paix et de la coexistence dans le monde. Et ça, c'est un travail d'agenda politique dans les États, mais aussi dans la coopération, dans les relations économiques et les investissements étrangers de masse dont on a besoin en Afrique où il y a une masse main-d'œuvre. Mais il faudra que dans les pays, qu'il y ait la démocratie, la transparence, des systèmes éducatifs fonctionnels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Babacar Ndiaye, chercheur principal à Timbuktu Institute. On termine avec du sport. Les Rwandaises de l'équipe de volleyball ASSI qui participent aux Jeux paralympiques de Paris estiment que les pays africains ont beaucoup à faire pour valoriser les personnes en situation de handicap. Elles affirment qu'il est possible de surmonter le handicap et contribuer comme les autres au développement du continent. Le point avec notre correspondant à Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
L'équipe est féminine rwandaise de volleyball assis dans une séance d'entraînement avant leur départ pour les Jeux paralympiques qui ont débuté mercredi à Paris. Cette équipe est la seule africaine dans cette discipline, une réalisation acquise au prix de beaucoup d'efforts. Liliane Mukobangawe est capitaine de l'équipe rwandaise de volleyball assis.
Partout où on passait, on nous sous-estimait. Voyez ces handicapés qui ont gagné ou voyez-les. Ce sont elles qui vont jouer, disait-il. Donc des propos qui nous dévalorisaient, nous prenant pour des objets et non des personnes.
Représenter tout le continent africain à un si haut niveau est une tâche ardue, synonyme d'une lutte acharnée, un esprit que l'entraîneur essaie d'insuffler à ses joueuses.
Nous allons affronter des équipes fortes, à commencer par le Brésil, la première équipe au monde, le Canada deuxième. La Slovénie n'est pas de même calibre, mais c'est aussi une forte équipe expérimentée. Mais nos joueuses très jeunes ont la chance de travailler pour obtenir de bons résultats. Je dis souvent à mon équipe que nous n'y allons pas pour nous amuser, mais pour gagner et que nous devons lutter pour ça.
Confiante en elle-même, les joueuses de l'équipe rwandaise affichent une grande ambition d'aller le plus loin possible dans cette compétition.
Nous sommes bien confiantes. Nous savons que nous allons représenter notre pays. Nous devons aussi beaucoup travailler pour l'honneur de notre continent dans les concerts de nations.
Même si ces joueuses rwandaises se félicitent de l'évolution des mentalités dans le pays quant au respect des droits des personnes avec handicap, elles indiquent que les pays africains ont beaucoup à faire pour garantir les droits des personnes en situation d'handicap.
Dans la plupart des pays que nous avons visités, la situation reste compliquée. Dans certains hôtels, on peinait à accéder aux services de base. On pouvait monter les escaliers jusqu'au deuxième étage faute d'ascenseur. Je demanderai aux pays africains de valoriser des personnes en situation de handicap et de comprendre qu'elles ont droit à tous les services comme tout le monde. Qu'ils comprennent que les personnes avec handicap ne peuvent pas accéder aux services dont ils ont besoin si les barrières ne sont pas supprimées. elles doivent être considérées comme les autres citoyens et jouir des mêmes droits.
C'est pour la troisième fois que l'équipe rwandaise de volleyball assis participe aux Jeux paralympiques. Jusqu'ici, aucune équipe africaine n'a réussi à décrocher une médaille dans cette compétition. Jean Damasenimani Chimney pour VOA Afrique, Kigali.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.